Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Dedans, dehors, ce matin, on reste encore un peu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et on s'intéresse aux liens qui se sont noués avec l'environnement. Françoise Verchère, vous avez été longtemps maire de Bouguenay, une petite commune qui jouxte Nantes et qui est en fait très directement concernée par ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça signifie que j'imagine que pendant toutes vos mandatures, vous avez été accompagnée par ce projet. De fait, vous avez été extrêmement active au sein de différentes associations, en particulier celle qui s'appelle CEDEPA. Rappelez-moi le...
C'est le collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'on s'est constitué en 2009 et effectivement, beaucoup d'élus, en fait, ne connaissaient pas bien le dossier. Donc, on a commencé par douter. Mais dès qu'on doute, on creuse. Et quand on creuse, on trouve qu'à la fin, c'est un mauvais projet.
Et de fait, vous en êtes arrivé à des conclusions si étayées que vous avez publié, il y a quelques semaines à peine, un petit ouvrage, Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État, aux éditions Timbuktu. Alors, fabrication d'un mensonge d'État, c'est un sous-titre extrêmement fort. Et j'aimerais peut-être qu'on revoie avec vous les différentes étapes de tous ces processus qui ont... amené à la situation où nous sommes aujourd'hui et surtout qui vous ont amené, je dirais, à sortir d'une certaine forme de confiance que vous évoquez au début du livre. Vous avez cru au début que les processus étaient effectivement bien rodés, que la démocratie en France s'était dotée d'énormément d'outils et de fait vous citez un certain nombre de textes de loi qui au fil des années ont émaillé cette construction de... l'enquête publique, le débat public, la transparence, vous y avez cru ?
Oui, j'ai d'autant plus cru que j'ai mis en pratique ces procédures de débat public, puisque dans une commune, on est amené à se poser des questions d'intérêt général et éventuellement à aller jusqu'à l'expropriation, c'est-à-dire que ce sont des procédures lourdes, une fois qu'on a jugé qu'il y avait un intérêt général. Donc, je les connais bien, ces procédures, je les ai moi-même utilisées. Et c'est vrai que, en creusant ce dossier d'aéroport, je me suis rendu compte à quel point elles étaient mal faites ou bien faites, c'est selon le point de vue. Elles sont mal faites dans le sens où, effectivement, rien ne peut arrêter la machine qui est mise en route. Elles sont donc bien faites pour ceux qui, finalement, veulent simplement faire valider par des processus apparemment démocratiques une décision qui a déjà été prise. Et finalement, c'est cela que j'ai découvert en regardant de très près ces procédures, puisque c'est ce que l'on nous oppose aujourd'hui le plus fréquemment. Pour ne pas parler du fond du dossier de l'aéroport, on nous dit « mais enfin, les procédures ont été respectées, c'est l'état de droit qui doit l'emporter, et donc si vous désobéissez, c'est effectivement parce que vous refusez la démocratie ». En gros, c'est, je résume, mais c'est un peu cela. Et donc, si on les regarde de près, toutes ces procédures, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, fondamentalement, elles ne sont pas faites pour mettre en débat l'utilité sociale réelle d'un projet.
Alors, on va détailler tout ça, mais effectivement, ce que vous nous dites, Françoise Verchère, c'est que la décision est prise avant même que la machine se mette en marche. Vous avez dit, on ne peut pas arrêter la machine, mais en fait, au moment où elle démarre, tout est déjà bouclé.
Oui, parce qu'au moment où on va discuter avec la population, que ce soit au moment du débat public pour les grosses infrastructures ou au moment d'une enquête publique, en réalité, le projet a déjà été monté. Alors, c'est vrai qu'il est difficile d'aller parler à la population d'un projet qui n'existerait pas, mais en réalité, lorsqu'on vient présenter un projet, que ce soit celui d'un nouvel aéroport, d'une ligne à grande vitesse, voire d'un centre de loisirs privé, pour, je pense à Roibon par exemple, ou d'un barrage, l'étude a déjà été montée entre les décideurs et les techniciens, et c'est cette étude-là qui va être mise au débat, mais on n'a pas fait le travail préalable de l'analyse des besoins réels avec la population. Autrement dit, on ne vient pas vous dire « de quoi avez-vous besoin ?» mais nous avons pensé qu'il vous faudrait, ou qu'il faudrait, pour le rayonnement, pour le développement, un nouvel aéroport, une ligne grande vitesse, etc. Et donc, on va discuter à la marge des améliorations possibles. Le tracé un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça, la peinture un peu plus verte. Mais fondamentalement, le besoin de la population n'est pas analysé et n'est pas débattu avec la population.
Ça veut dire donc que la première question, celle qui devrait précéder toutes les autres, est simplement escamotée. Vient ensuite, tout de même, la discussion qui a lieu, le débat qui a lieu. Et de fait, au cours de ce débat, on n'est pas tenu de s'exprimer uniquement sur la couleur de la peinture. On peut aussi, très opportunément, rappeler que ce nouvel aéroport n'est peut-être pas complètement nécessaire.
Oui, absolument. Dans les étapes de débat public et de la commission d'enquête publique, on est censé pouvoir s'exprimer sur le besoin, la nécessité ou non de telle ou telle infrastructure. Mais au bout du compte, il suffit de regarder les projets les uns derrière les autres, pour constater que, massivement, ce sont d'ailleurs des opposants qui s'attellent au travail d'analyse et qui viennent rencontrer les commissaires enquêteurs, qui écrivent, qui proposent des alternatives. Mais au bout du compte, le dossier est maintenu. Et je vais prendre des exemples très récents. Il y a deux lignes à grande vitesse pour lesquelles la commission d'enquête a émis des avis négatifs, ce qui est déjà très rare. Une commission d'enquête publique, je connais bien le fonctionnement, elle est faite, d'abord, elle est faite avec des gens qui ont plutôt une âme de développeurs. Ce sont des anciens ingénieurs, des anciens responsables de ce type de projet. Et donc, il est très rare qu'une commission d'enquête donne un avis défavorable. Mais là, nous venons d'avoir deux cas exceptionnel, avec deux avis négatifs, l'un pour la LGV Poitiers-Limoges, l'autre pour la LGV Bordeaux-Bayonne passant par les Landes. Avis négatif de la commission d'enquête publique et l'utilité publique est tout de même prononcée. Donc, il n'y a pas dans les procédures de cliquet d'arrêt, sauf le pouvoir politique suprême.
C'est ça, ça c'est de toute façon dans les textes, c'est-à-dire que cet avis n'est que consultatif en vérité.
Tout à fait, les avis ne sont que consultatifs et lorsque le préfet ou le ministre prend un arrêté d'utilité publique, il dit bien, vu l'avis de, que cet avis soit positif ou négatif. Et ensuite il est censé faire la balance. Donc autrement dit, c'est finalement le pouvoir central, hein, que ce soit le préfet quand ce sont des projets d'intérêt locaux ou le pouvoir national qui détermine la balance entre les intérêts et les inconvénients et entre les avis. Donc forcément, il y a là quelque chose de terrible. Sur cette histoire d'aéroport, le cas le plus spectaculaire, c'est l'avis scientifique sur la destruction de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Lorsque, après l'opération César, le Premier ministre a mis en place une commission du dialogue, en parallèle, il y a eu aussi une commission de scientifiques pour valider ou non la méthode dite de compensation à la destruction de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Cette commission scientifique a rendu un avis sans appel. Elle dit clairement que probablement ce site n'est pas compensable, ce biotope-là exceptionnel n'est pas compensable. Et elle dit que s'il fallait le détruire pour une raison d'intérêt majeur, la méthode retenue n'est pas bonne, ni dans son principe, ni dans son application au site. C'est tout de même assez spectaculaire. Nous étions persuadés qu'avec cet avis scientifique, le projet allait prendre vraiment un coup d'arrêt. Qu'en est-il ? Pas du tout. Le ministère a continué en disant « l'avis des scientifiques est un avis de scientifiques en chambre, à peu de choses près, donc nous allons améliorer un peu à la marge ». Et pire, le premier jugement que nous avons eu donc sur cette affaire-là nous a révélé l'état dans lequel est notre processus de démocratie en France. Le juge dit que c'est parfaitement légal que le ministère continue alors même que l'avis scientifique est négatif puisque rien dans la loi n'oblige à suivre l'avis des scientifiques. Et la boucle est bouclée. Vous pouvez aligner toutes les bonnes raisons. Le projet continue parce que le projet a été décidé.
Il y a tout de même, Françoise Verchère, la possibilité de recours pour les associations et vous n'avez pas failli à la règle, vous avez même fait un nombre de recours tout à fait impressionnant. Et c'est là encore, quelque chose qui aujourd'hui vous est opposé. On vous dit, mais enfin, il y a eu énormément de recours.
Oui, alors d'abord, on nous dit qu'on a perdu tous les recours, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque nous avons au moins gagné un ensemble de recours sur le fait que des aides publiques avaient été versées de manière illégale. Et nous avons donc fait rentrer dans les caisses de l'État et des collectivités locales près de 800 000 euros, ce qui n'est pas rien. 800 000 euros d'intérêt. Donc voilà, ça c'est les recours que nous avons gagnés. Mais effectivement, sur le fond des recours, le problème, c'est que là aussi, la machine juridique est très complexe et que nos recours n'ont pas pu porter dès le début sur le fond même du dossier et sur ce que nous considérons aujourd'hui comme des manipulations. C'est-à-dire que ce dossier, mais je pense que c'est identique dans d'autres cas, ce dossier est opaque. Il est opaque sur la prétendue étude socio-économique qui validerait l'intérêt pour la collectivité de ce projet, puisque nous n'avons toujours pas obtenu, près de 9 ans après l'enquête d'utilité publique, nous n'avons toujours pas obtenu les tableaux chiffrés de cette étude qui, soi-disant, prouve l'intérêt financier collectif du projet d'aéroport. Donc il y a une forme d'opacité, de technicité des dossiers qui fait que, pour les opposants, il est très long et très compliqué de comprendre les manipulations ou ce qui nous est pudiquement caché. Voilà. Et lorsque nous avançons des recours, parfois ils sont balayés d'un revers de la main, d'abord parce que nous n'avons pas eu accès aux bonnes clés, finalement, ou bien aussi parce que il y a les mêmes phénomènes un peu, j'ai envie de dire, de paresse intellectuelle, à peu près à tous les niveaux, qui fait qu'au bout d'un moment, les gens ne regardent plus le fond du dossier et considèrent qu'il est validé parce qu'il est validé, parce que cela fait déjà longtemps qu'il a été validé.
Ils regardent d'autant moins qu'ils entendent tout de même des discours extrêmement rassurants. Et ces discours, on continue à les entendre. Je pense par exemple à ces arguments en faveur du déplacement de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui concernent d'abord la sécurité de la ville de Nantes, le niveau de bruit auquel seraient exposés les riverains. Et ça, vous pouvez nous en parler, puisqu'à Bouguenay, vous êtes vraiment concerné directement. Mais il y a aussi des arguments, justement, qui sont des arguments écologiques. Cette fameuse réserve de grands lieux qui est tellement impactée par l'aéroport actuel et qu'il faut sauver de toute urgence.
Oui, alors ce sont des arguments qui sont étonnants parce que moi je ne nie à personne la possibilité d'opiner, d'avoir une opinion, de faire un pari sur l'avenir, sur le transport aérien, sur le développement, sur les moyens qui nous permettraient de sortir des problèmes climatiques et écologiques, pourquoi pas, mais on ne peut pas le faire à partir de mensonges. Et donc il faudrait déjà qu'un certain nombre d'arguments soient définitivement enterrés. Et vous en avez cité deux qui le sont. La question du bruit, bien évidemment, les deux communes qui sont impactées, ce sont Bouguenay et Saint-Aignan-de-Grandlieu. Dans la commune que j'ai longtemps dirigée, où j'ai été longtemps élue, personne n'a jamais demandé le transfert de l'aéroport parce que l'aéroport, c'est la locomotive en quelque sorte de l'emploi du Sud-Loire et c'est toute la zone associée avec Airbus, la construction aéronautique, l'aéroport et la zone d'activité qui a fourni du travail et des ressources financières importantes à ces communes. En revanche, comme maire, je me suis bagarrée pour que l'on vive au mieux avec notre aéroport. Parce que je crois qu'on peut, et encore plus aujourd'hui où les progrès des avions sont spectaculaires, on peut vivre au mieux. Mais j'ai été très surprise de constater que j'étais totalement seule dans cette bagarre menée pour qu'il n'y ait pas beaucoup de vols de nuit, pour que les indemnisations pour aider les habitants à insonoriser leur maison arrivent vite. J'étais totalement seule. Or, quelle n'est pas ma surprise de voir aujourd'hui les porteurs du projet se soucier, paraît-il, du bruit, de la sécurité, voire des oiseaux du lac de Grandlieu. En réalité, on voit bien que ce sont des arguments émotionnels qu'ils utilisent pour faire peur et pour demander, ce qui est assez logique si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous voulez que les nuisances au-dessus de votre tête s'en aillent ?» L'intérêt immédiat et privé, c'est de dire oui, bien sûr. Mais honnêtement, quand on regarde les cartes de bruit de l'agglomération nantaise, c'est le bruit routier qui impacte de manière massive énormément de gens sur l'agglomération. Or, aujourd'hui, on ne parle pas de déplacer les grands axes routiers, ni le périphérique. On construit même des immeubles avec balcon face à des voies très passantes et ça n'a l'air de faire souci à personne. Quant à l'argument du lac, alors ça, celui-là est aussi étonnant puisqu'il est régulièrement avancé et généralement par des gens qui d'habitude se soucient peu d'écologie. Or, quel est le problème du lac? Car il y en a un, c'est la qualité de l'eau. C'est-à-dire que ce lac, il peut mourir d'eutrophisation, c'est-à-dire que l'eau est trop chargée de sédiments et c'est lié à la pollution urbaine et à la pollution agricole.
Et pas du tout aux avions, non.
Absolument pas aux avions, évidemment. En revanche, les oiseaux se sont habitués au vol des avions. Ils ne bougent pas lorsqu'un avion passe, ni au décollage, ni à l'atterrissage. En revanche, si vous et moi allons nous promener au bord du lac et crions, alors là, les oiseaux s'envolent. Donc, là encore, moi, je ne suis pas ornithologue, je ne suis pas spécialiste, je me retourne vers un scientifique. Le scientifique qui connaît le mieux le lac de Grandlieu, c'est un professeur au CNRS, Loïc Marion, il y a passé une grande partie de sa vie, il affirme très clairement que les oiseaux et l'aéroport font tout à fait bon ménage. En revanche, dit-il, si on ouvre l'urbanisation, ce qui pourrait arriver en cas de transfert de l'aéroport, alors on va aggraver les problèmes de qualité d'eau. Est-il le seul à dire cela ? Non, puisque nous venons de découvrir qu'un des services de l'État, la Direction régionale de l'environnement, dit la même chose. Mais évidemment, ça gêne l'État aux entournures d'affirmer cela. Et donc, le Premier ministre, à qui on a sans doute donné de très mauvaises fiches, continue à répéter qu'il faut transférer l'aéroport pour protéger le lac de Grandlieu, ce qui est totalement faux.
Alors, tour de passe-passe, escamotage, mauvaise connaissance des dossiers et des fiches, petites entourloupes. On est encore loin du sous-titre de votre livre, Françoise Verchère, La fabrication d'un mensonge d'État.
Mais j'ai été obligée de mettre ce titre parce que c'est un projet d'État et que moi qui avais une confiance, je dois dire, totale, parce que j'ai une formation civique et puis républicaine, voire jacobine, on me l'a souvent reproché d'ailleurs, j'ai cru à cet État garant du traitement équitable des citoyens partout sur le territoire national. J'ai cru à cet État juge de paix qui soit capable de peser effectivement les intérêts et donc de dégager l'intérêt général. Et en fait, je m'aperçois que ça n'est pas le cas, parce que si c'était le cas, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette impasse. C'est-à-dire que lorsque les arguments objectifs sont mis sur la table, il devrait y avoir arrêt, remise à plat et réexamen. Or, j'ai constaté que c'était tout le contraire. Et en déroulant le fil de tout cela, on trouve, à côté de ces procédures dont j'ai parlé tout à l'heure, on trouve aussi un paquet beaucoup moins agréable encore, qui est celui des conflits d'intérêts, de la connivence entre des grands groupes et l'État. Je parle dans ce livre de quelques exemples. Le préfet qui était en charge de l'affaire de l'aéroport ici au moment de l'enquête d'utilité publique est ensuite parti après sa retraite de préfet dans le groupe Vinci. L'actuel responsable Nicolas Notebert de Vinci Concessions a été le chef de cabinet de Jean-Claude Guessot, ministre du Parti communiste, ministre communiste sous Lionel Jospin, qui a relancé le projet. Il y a au plus haut niveau de l'État cette forme de connivence que certains appellent à juste titre une forme d'oligarchie, qui explique probablement à quel point nos arguments pourtant étayés ne passent pas la barre, le plafond de verre, j'ai envie de dire le plafond du pouvoir. Donc oui, c'est inquiétant, parce que du coup, comme la décision politique reste figée sur ce mauvais projet, on est obligé derrière de fabriquer du mensonge pour justifier à nouveau.
Et là, de fait, vous avez pris l'État la main dans le sac.
Oui, on prend l'État la main dans le sac à plusieurs reprises. On le prend la main dans le sac parce que la Direction générale de l'aviation civile refuse de donner la fameuse étude qui est vraisemblablement manipulée. Nous avons trouvé comment il la manipule. Mais ça n'a pas été montré au moment de l'enquête publique et nous n'avons toujours pas cette étude. C'est incroyable. La Direction générale de l'aviation civile qui a écrit en 2012, qu'elle avait vérifié les calculs, dit aujourd'hui qu'elle n'a rien à nous donner alors que nous avons obtenu de la commission d'accès aux documents administratifs le droit de voir cette étude. Et Ségolène Royal a beau vouloir la transparence, visiblement, on n'arrive pas à retrouver l'étude. C'est stupéfiant et on voit bien que ça n'est pas un hasard. Voilà. Donc on prend la main dans le sac l'État là-dessus, on prend la main dans le sac l'État, c'est la dernière révélation du canard enchaîné, puisqu'il y a bien une infraction à la directive européenne, mais que là encore, c'est le secret absolu. Les échanges entre la France et la Commission européenne sont placés sous le sceau du secret. Mais dans quelle démocratie vivons-nous ? Et on vient nous dire après qu'il faut que nous soyons obéissants et que tout a été respecté. Non. C'est-à-dire, notre confiance est totalement minée. Moi, je suis, alors que j'ai fini ma vie politique au sens d'élu, je suis stupéfaite. Je suis stupéfaite.
Peut-être, Françoise Verchère, faut-il élargir un peu à d'autres projet. Ce projet d'aéroport n'est pas un cas unique ou exceptionnel. Vous avez évoqué les lignes à grande vitesse du Sud-Ouest, mais il y a tout ce qu'il est convenu aujourd'hui dans les milieux protestataires de ranger sous le nom de grands projets inutiles et imposés.
Oui, l'année dernière, nous avons travaillé en commun, justement, parce que à la suite de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens, enfin le projet de barrage de Sivens, le président de la République a annoncé un grand débat sur la rénovation, précisément, du débat public pour éviter qu'il y ait à nouveau ces blocages, disait-il, et cette violence, sous-entendu la violence des opposants, alors que là, la violence était clairement ailleurs. Et donc, il a mis en place une commission spécialisée, ce qui est une habitude en France. Donc, elle a été présidée par Alain Richard, ancien ministre, et elle a regroupé des associations environnementales, des représentants du MEDEF, de la CGPME, de la FNSEA, des syndicats patronaux, des élus. Et nous avons demandé à être auditionnés. Quand je dis nous étions 12 représentants de mouvements. Alors, il y avait aussi bien l'opposition au Lyon-Turin que l'autoroute A65, déjà réalisée, mais dont on voit qu'elle était mal pensée. Roibon, le Center Park, Sivens, le barrage, l'aéroport, des lignes grande vitesse. La ferme des 1000 vaches aussi. Et nous avons analysé justement les dysfonctionnements. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus protester en disant « je ne veux pas de l'aéroport, je ne veux pas de la ferme à côté de chez moi ». Nous sommes venus montrer les défauts dont on a parlé tout à l'heure, que l'on retrouve dans chacun de ces dossiers, dans chacun. Nous avons aussi montré tous les conflits d'intérêts, car ce que j'ai cité tout à l'heure comme exemple pour Notre-Dame-des-Landes se retrouve malheureusement dans aussi beaucoup de ces projets-là, cette collusion et ces choses assez peu claires. Nous avons montré tout cela et nous avons fait des propositions claires pour modifier les textes de manière à éviter cela. Et je dois dire que nous avons été écoutés avec beaucoup d'attention pendant une après-midi entière. Nous avons été félicités à la sortie pour le travail remarquable d'analyse que nous avions fait, parce que je pense que vu de Paris, on s'imaginait voir arriver d'affreux protestataires violents. Nous avons été félicités. Qu'en reste-t-il un an après ? Là aussi, c'est stupéfiant. Il n'y aura pas de débat parlementaire, il y aura des ordonnances pour rénover le débat public. C'est extraordinaire. Donc les parlementaires sont mis hors circuit et aucune des propositions vraiment concrètes que nous avons faites ne va se retrouver dans ces ordonnances. C'est-à-dire que l'on va encore faire semblant de redonner du pouvoir à la population. On parle maintenant de faire des débats un peu plus en amont encore, d'avoir un garant qui sera garant justement de la transparence. Mais tout cela est déjà dans les textes. Si aujourd'hui les textes existants étaient vraiment appliqués, nous n'en serions pas là, car dans les textes, il y a les mots transparence, contre-expertise, proposition alternative. Ces trois choses-là n'existent pas aujourd'hui, dans la réalité.
Plus exactement, elles existent, mais elles n'arrivent pas jusque sur la place publique. Mais Françoise Verchères, vous n'êtes pas comme ces institutions qui ont tellement de mal à lever le voile sur les documents qui sont en leur possession. Et donc, on peut très facilement se procurer ce petit ouvrage, Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État. Il y a également des cahiers que vous avez réalisés, les cahiers de l'atelier citoyen, oui, qui sont des cahiers où sont expliquées et montrées des propositions alternatives tout à fait concrètes, tout à fait pensées, et qu'on peut également se procurer.
Oui, absolument, parce que le gros reproche qu'on peut faire à des opposants, parfois, c'est de ne pas avoir de propositions alternatives et d'être dans le refus et jamais dans la construction, ce qui n'est pas du tout le cas de tous ces mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure. À chaque fois, il y a des propositions concrètes. Et là, nous avons fait le pari avec un atelier citoyen qui a regroupé une centaine de personnes pendant un an. Nous avons fait le pari qu'il était possible, avec toutes nos intelligences rassemblées et nos compétences, de travailler sur l'actuel aéroport et de montrer comment on pouvait le rénover à moindre coût, tout en rendant la vie possible pour les habitants qui sont à côté de cet aéroport. Donc il y a 7 cahiers qui montrent l'intérêt pour tout le monde d'avoir une solution alternative et de sortir de l'impasse de Notre-Dame-des-Landes. On peut les trouver sur le site Atelier Citoyen, car notre particularité, c'est de mettre tous nos documents en accès libre sur nos sites internet. Donc il faut aller voir le site de l'Atelier citoyen pour comprendre que l'on peut vraiment garder l'aéroport actuel et ainsi permettre de ne pas détruire le site de Notre-Dame-des-Landes.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Margot, il y a eu un épisode dans la vie de la ZAD un peu particulier auquel vous avez participé. C'était en novembre dernier, au moment où la COP21 allait se tenir à Paris. Il y a eu des convois qui sont partis d'un certain nombre de sites occupés un peu partout en France, et en particulier de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous y étiez, alors j'aimerais que vous nous en parliez un peu. C'était un convoi assez étonnant et qu'on suivait vraiment au jour le jour, parce que en principe, il était interdit à tous ces convois de converger vers Paris.
Tout à fait, oui. C'était une tracto-vélo qu'on a organisée pour monter à Paris et aller à la COP21, qui partait de Notre-Dame-des-Landes et qui cheminait donc avec une partie en tracteur et une partie en vélo des cyclistes. Et on était donc hébergés chaque soir dans des lieux qui nous accueillaient, voilà, tout le convoi.
Tout le convoi, c'est-à-dire combien de personnes ?
Ça dépendait des jours, parce que tout le monde n'a pas participé du début à la fin. Des gens nous rejoignaient en cours de route, des gens partaient. Mais entre 100 et 200 personnes à peu près.
Et donc vous aviez trouvé des moyens d'être hébergés un peu partout sur le chemin ?
Oui, tout à fait. On a dû chercher, hein, c'est pas fait comme ça, mais oui, on a trouvé un peu partout des fermes, des collectifs qui nous ont accueillis, des habitants aussi qui nous ont ouvert leur maison. Donc l'hébergement était selon les étapes, en dur ou sous tente, ou des fois les deux. Les personnes qui voulaient absolument être hébergées en dur ont pu l'être à chaque fois.
C'était des moments de rencontre avec les gens ?
Des moments de rencontre, ouais, où on a pu échanger en fait sur ce qui se passait à la ZAD et faire un peu ce qu'on fait en ce moment, les infotours. On est arrivé avec une vidéo qui présente ce qui se passe actuellement sur la ZAD et qui était un support d'échange pour montrer tout ce qui se pratique et lancer le débat avec les gens qui nous accueillaient.
Quelle était l'ambiance en général ? Est-ce que les gens se méfiaient un peu de vous ou alors avaient des reproches à vous faire ? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'était plutôt chaleureux ?
Non, c'était extrêmement chaleureux. Les gens nous ont accueillis. Et puis même pendant les débats, je pense, étaient assez impressionnés et admiratifs. Plein de bienveillance et d'attention. Après, le soir, faut pas cacher que on avait quand même la journée dans les pattes. On venait de faire plusieurs dizaines de kilomètres de vélo les soirées sont pas forcément éternisées jusqu'à très tard, parce que pareil, le lendemain, il fallait qu'on se lève tôt. Et donc voilà, il y avait quand même la fatigue qui se ressentait, mais il y a eu des beaux moments de fête aussi partagés. Sur l'échange qu'on a eu avec eux, l'échange se passait également sur les luttes. À Angers, on a été accueillis par des gens qui soutiennent les migrants et qui, pour l'occasion, ont ouvert une maison, voilà, pour reloger certaines personnes. Donc voilà, c'était l'occasion de discuter de ce qui nous unit aussi à travers nos vies.
Et avec les forces de l'ordre, pas de problème ?
Si, les forces de l'ordre nous ont un peu pimenté le trajet. C'était du côté de Danceny, si mes souvenirs sont bons. À un moment donné, on s'est fait doubler par des voitures de gendarmerie. Et à un rond-point, ils nous attendaient, en fait. On est passé devant des voitures de gendarmerie. Et un peu plus loin, on voit que la route est barrée. Donc on arrive. Et là, ils nous stipulent que non, on ne passera pas. Enfin, que pour passer, en fait, il faut qu'on montre tous notre pièce d'identité. Donc on leur dit, on se réunit, on se dit collectivement que ce qu'on avait décidé, c'était que personne ne montre sa carte d'identité. Donc voilà, on tient notre position. Il y a un porte-parole qui va et qui leur dit que non, en fait, on ne montrera pas nos pièces d'identité, que personne ne montrera ça et qu'on attendra. On est resté peut-être 2 ou 3 heures sur la 4-voies à finalement faire des jeux et montrer qu'on tiendrait bon. Et ils ont fini par appeler leur chef, hein, c'est remonté, et bon, finalement ils ont accepté qu'on passe et ils ont ouvert le barrage.
En fait, vous êtes arrivé jusqu'en région parisienne et le but, a priori, c'était d'arriver dans Paris et d'organiser un grand festin dans Paris. Ça n'a pas pu se faire.
Non, ça n'a pas pu se faire. En fait, l'Île-de-France nous était interdite, une interdiction de manifester. Et du coup, on a décidé finalement de se rabattre sur Versailles. Voilà, c'était un pied de nez d'aller occuper ce lieu qui, lors de la Commune, représentait, et puis qui toujours représente le pouvoir. Et donc, on est allé devant le château de Versailles. Et c'est là qu'a eu lieu le banquet qu'on avait initialement prévu à Paris. Voilà.
Kurt Weber, les cantines, en fait, elles sont vraiment liées à une certaine forme de lutte et de combats qui sont menés dans les 10-15 dernières années. Il n'y a pas toujours eu des cantines.
Ah, je pense qu'il y a eu de tout temps des cantines. On a pu le voir sur même n'importe quelle forme d'organisation de piquet de grève. Assez vite, soit les ouvriers eux-mêmes, soit les femmes d'ouvriers s'organisaient pour amener à manger là où il fallait, et en temps et en heure. Du coup, on peut dire que ça a toujours appartenu au mouvement de lutte.
C'est les formes peut-être qui ont changé alors.
C'est les formes qui ont changé, parce que maintenant on peut, ou dans le milieu d'où je viens, on pourrait dire le milieu militant, on pourrait distinguer deux types de cantines, qui seraient les cantines fixes, avec la prise d'un lieu dans une ville ou en proche périphérie par un collectif qui s'organise au travers de ce lieu-là.
Et puis, vous dites prise d'un lieu comme si c'était vraiment une conquête.
Ah ben il y a toujours la prise du lieu en tant que squat, occupation d'un lieu, et après la prise d'un lieu, oui, collectivement, parce que il y a toujours un enjeu à s'organiser ensemble pour même faire une location d'un grand local. Prendre un bout de territoire dans une ville, c'est toujours une lutte au final. Et puis il faut pouvoir trouver des propriétaires qui acceptent de louer à des associations, à des collectifs qui ont un but étrange, on va dire. Juste de réunir des personnes, ça paraît toujours un peu flou comme idée.
Donc ça, c'est une forme. Je vous ai interrompu, vous disiez qu'il y en avait deux.
Et la deuxième forme, ça serait la cantine mobile, celle qui est capable d'aller directement sur le terrain d'une lutte en cours. Donc, piquet de grève, on peut se rappeler pendant les grandes grèves sur la retraite, où on a vu pas mal de cantines se monter à ce moment-là, mais aussi, je pense, dans les premiers jours des combats à Notre-Dame-des-Landes au moment de l'opération César, où des cantines sont venues même de Hollande pour alimenter des milliers de personnes qui se trouvaient là. Et je crois qu'il n'y a eu rien eu de plus jouissif à ce moment-là qu'après des jours, les pieds dans la boue et dans le froid, d'avoir des gens qui sont arrivés avec une force de cuisine folle, pouvoir nourrir extrêmement bien des milliers de personnes, faire cuire des centaines de kilos de riz, manger chaud pour tout le monde et que tout le monde puisse manger. C'était vraiment, je crois que c'était un des grands bonheurs du début de la lutte de Notre-Dame-des-Landes.
Bonheur et un peu miracle. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que les deux formes sont liées? Est-ce que ce sont les cantines fixes qui alimentent les cantines mobiles ou...
Eh ben, dans ce cas-là, ils ont effectivement aussi une cantine fixe dans laquelle ils font des repas pendant les semaines. Et ils ont une infrastructure mobile. Dès qu'ils sont appelés ou dès qu'ils ont envie de venir, ils se déplacent. Et pour ça, effectivement, ils ont même fabriqué des casseroles à dimension de ce qu'ils avaient besoin, fabriqué leur réchaud, leur chauffe-eau adapté à leur casserole, ce qui leur permet à peu près de tout faire. Et ce que certains amis en ce moment sont en train de faire, ils sont allés là-bas d'ailleurs pour apprendre et à fabriquer les chauffe-eau et à fabriquer les casseroles. Parce que je pense que dans le commerce, au final, même s'il y a des très grandes casseroles, il n'y a jamais des casseroles adaptées vraiment pour 1000 personnes dans des conditions un petit peu boueuses, sauvages ou en plein milieu de la forêt de Roanne, par exemple.
Alors là, quand je vous écoute, Kurt Weber, je me dis que non seulement les formes ont changé, mais la dimension aussi.
Eh ben, je pense qu'au début, effectivement, il y a toujours cette idée de se donner un nombre de repas à fournir. Sur une des cantines auxquelles j'ai participé quelques années, on ne savait pas trop au début vers combien de repas on devait aller. Puis à un moment, on s'est fixé à pouvoir faire 70 repas par midi. Donc une fois qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. En tout cas, c'était le minimum à fournir. Et effectivement, quand on est sur des terrains de lutte comme ceux qui ont été connus à Notre-Dame-des-Landes, c'est des gens qui nous ont montré qu'une fois qu'on pouvait faire de la bouffe pour 70 personnes et une bonne nourriture, on pouvait certainement la faire pour 500 avec la même aisance si on se donnait les moyens et le matériel pour le faire.
Il y a le matériel, il y a aussi l'approvisionnement.
Ça, c'est une des dimensions, je pense, qu'on a découvert avec l'organisation des cantines, c'est qu'au début, on s'est équipé, moyennement, on allait faire des courses... dans des grands supermarchés réservés aux collectivités. Puis petit à petit, l'idée que le prix libre paierait les courses et que ça fonctionnerait comme ça, selon une certaine boucle, ça n'a pas suffi à donner une réelle dimension aux cantines. Après, on a commencé du coup à faire le tour des maraîchers pour voir autour de la ville, pour voir un peu comment on pouvait s'organiser avec eux, soit acheter à bas prix. Puis petit à petit, au fil des mois et des années, il y a vraiment des amitiés qui se sont liées. Et du coup, il y a eu tout ce qui a été la récupération des légumes avec qu'on pouvait, dès que lui ne les vendait pas sur le marché ou ne pouvait pas les vendre, qui commençait à être un peu gâchés, on pouvait les récupérer. Et là, ça a commencé à donner une manne énorme de légumes qui a permis d'une part d'alimenter la cantine et d'autre part de faire du don ou du libre-service pour toutes les personnes qui avaient besoin de légumes à ce moment-là en ville.
Parce que ce qui est important, c'est que ça soit à prix libre ou à prix très bas?
Je pense que dans la plupart des cantines que j'ai fait, on a toujours essayé prix libre ou effectivement un menu très bas. Et maintenant, on voit que le prix libre, ça marche au moins pour amortir les frais. Ça marche pas pour essayer de générer un minimum de bénéfices pour réinvestir dans du matériel. Et du coup, on s'est mis, il n'y a pas si longtemps que ça, à faire des menus plus élaborés et du coup un peu plus chers. Mais quand on dit plus cher, je crois qu'on n'a jamais dépassé les 10 euros pour un grand menu entrée plat dessert. Du coup, c'est encore très raisonnable.
Ça, c'est toujours sur les lieux de lutte, ce dont vous parlez, Kurzweber?
Ça resterait plutôt sur la cantine fixe, sur les endroits où on essaye de faire des repas à midi pour au moins 4 jours par semaine. Donc avec une entrée libre. Une fois que ça se sait, tout le monde vient. Et c'est aussi ces lieux-là qui nous ont permis énormément de rencontres avec le milieu étudiant qu'on avait progressivement quitté, mais aussi simplement les gens du quartier qui ont entendu parler de la cantine, et puis tout le milieu militant local qui finalement peut se retrouver là. Et on sait que dans des forts moments de tension, par exemple quand on est sur l'ouest de la France, au moment des expulsions de Notre-Dame-des-Landes, la cantine de la Maison de la Grève a pu être un lieu de rassemblement pour les gens qui voulaient discuter et que faire à partir de Rennes. Voilà, ça a été autour d'un repas, comment on s'organise, des véhicules qui veulent aller aider là-bas, et puis amener des choses à manger, des bottes.
Je voudrais comprendre mieux, Kurzweber, comment tout ça s'organise, parce qu'il me semble que vous évoquez plein de choses, mais qu'on n'arrive pas vraiment à se les représenter. Si on repart de l'approvisionnement, je vois pas très bien, par exemple, comment, avec quelques légumes défraîchis, vous pouvez organiser un repas pour 500 à 1000 personnes qui vivent dans la boue et la fatigue à Notre-Dame-des-Landes. C'est un exemple.
Je pense qu'effectivement, au fil du temps, on a eu une proportion, ou en tout cas des proportions de légumes beaucoup plus importantes. Si au départ, on partait de petites productions, même de nos productions, qui étaient tout à fait minimales et qui n'auraient jamais permis de nourrir autant de personnes, le lien avec les maraîchers et des maraîchers producteurs a fait que les récups n'étaient plus 5 ou 10 kilos de poireaux, mais tout d'un coup 50 ou 100 kilos de poireaux, ce qui permet tout d'un coup de faire des beaucoup plus grandes soupes ou des beaucoup plus grandes tourtes. Même sur l'ouest de la France, ça a été peut-être d'abord un maraîcher, puis deux et trois. Donc si on multiplie 100 kilos de poireaux par trois maraîchers rencontrés, en récup, ça fait tout d'un coup 300 kilos de poireaux, et ce qui commence à faire pas mal de matières premières pour pouvoir réaliser de la nourriture. Et après, effectivement, on fait aussi toute une question de proportion. Quand on fait une tarte au poireau, on n'est pas obligé d'en mettre autant qu'on en mettrait à la maison. Les proportions peuvent être un peu réduites. Du coup, ça permet aussi de faire de la quantité. Et sur tout le reste de l'approvisionnement, mais je dirais presque du coup comme n'importe quel restaurateur. C'est-à-dire qu'on ne s'organise plus avec un kilo de farine, mais si on va chez un meunier, si on a la chance d'en trouver un, ou si on achète en gros, on va acheter tout d'un coup des sacs de 15, 20 ou 25 kilos, ce qui réduira de toute manière les coûts. Au final, faire un repas, quand on commence à s'organiser collectivement et à acheter en grande quantité la matière de base, ça veut dire pas acheter des pâtes toutes prêtes, mais les fabriquer, on a besoin d'eau et de farine, et de poireaux de récup et d'œufs de récup qui ont aussi progressivement en fin de marché été récupérés ou achetés à très bas prix, on a pu faire énormément de quantité. Après, ça demande quand même du temps et un ensemble de main d'œuvre, mais je pense que c'est ça qui sûrement donne la force aux cantines, et c'est d'être nombreux à vouloir les organiser. Sur Rennes, en servant 4 repas par semaine. C'est pas quatre fois la même équipe, quatre jours de suite qui fait la cuisine. C'est plutôt quatre équipes différentes, ce qui fait que, au final, c'est une grosse demi-journée par semaine. Et puis après, pour les grands repas de soutien, ben, on se met encore plus, mais à chaque fois, ça, une petite équipe de cuisine pour nourrir, pour faire 70 repas, par exemple, ça va être deux personnes ou trois personnes. Et ça suffira pour faire un entrée plat dessert vraiment très bien.
Victor Massip, Laurent Lebeau, vous avez fondé une agence de design industriel à Nantes, après avoir fait des études qui vous ont conduit à vous intéresser à un design industriel, certes, mais nourri d'une forte réflexion écologique, puisque, outre votre agence, vous avez également créé, alors comment est-ce qu'on va appeler ça, une association, un projet, voilà, que vous intitulez les Écovores et qui vous a conduit à réfléchir à un certain nombre d'équipements, des équipements pour une ville qui serait, qui sera plus écologique demain et peut-être même déjà aujourd'hui, puisque certaines de vos réalisations trônent déjà dans certains quartiers de Nantes. Je pense à ce composteur de quartier dans le quartier de logements sociaux de Malakoff, qui est un très bel objet et qui fait la joie des habitants du quartier, qui permet de composter énormément de déchets organiques. La raison pour laquelle on se voit ce matin, c'est que vous êtes extrêmement intéressé par toute cette lutte qui se noue autour du projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et en particulier par l'émergence de cette ZAD, cette zone à défendre, dans laquelle vous avez noué beaucoup de contacts. Et j'aimerais en fait que vous me parliez de vos travaux et de vos réflexions à vous, le design industriel, par rapport à une zone telle que celle-là, c'est-à-dire des lieux d'habitation où on est justement en dehors de tout ce qui peut être industriel. On est dans le do-it-yourself, on est dans le fait-soi-même, avec dans une échelle qui va de très peu d'outillage à pas d'outillage du tout. Alors, qui veut commencer ? Victor Massip.
Eh bien, en fait, déjà, ce que je dirais, c'est que quand on parle de designer industriel, ce terme-là est très flou dans la tête des gens. L'industrie, ça va de la très grande multinationale qui a des dizaines de milliers de salariés au chantier d'insertion. Et nous, on travaille pour des acteurs qui sont des fois des réseaux de toutes petites PME ou de start-up qui sont composés de deux ingénieurs. Et donc, et c'est l'essentiel, en fait, ce qui se passe, c'est que, à force de travailler pour toutes ces entreprises, on s'est aperçu qu'il y a une forme de ralentissement de l'envie d'innover par les très grandes entreprises. Elles innovent, mais ce qu'on appelle, elles font de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que par petits bouts, petites touches de style pour refaire une forme, mais sans jamais remettre en question les fondamentaux, alors même qu'on a un besoin incroyable aujourd'hui de, disons, de nouvelles donnes, de reconception en, disons, prenant comme critère essentiel l'humain et l'environnement. Et donc, fort de ce constat-là, on a bien, nous, à titre personnel, suivi les affaires donc de projets d'aéroport, et on a vraiment, à un moment donné, décidé de faire nous-mêmes un sorte de contre-projet à la mode design industriel, c'est-à-dire au sens où pour des objets qui seraient des sortes de objets à rêver, mais sans être trop matures sur certains détails de forme ou manière de les insérer réellement. On voit par exemple typiquement qu'à la ZAD, l'innovation qui se fait par le do-it-yourself se fait de manière extrêmement concrète et opérationnelle parce qu'il y a une énergie incroyable. Et nous, on l'a fait à partir d'images de photomontage qui sont un peu maladroits. Mais pour autant, on pourrait voir un certain nombre de parallélismes, notamment celui... Il faut comprendre qu'à la ZAD, la critique, c'est l'aéroport et la société qui va avec. Et quelque part, nous, en tant que designer industriel, on se met dans cette sorte de démarche, de projet qui critique l'industrie un peu d'aujourd'hui ou à papa.
Alors j'aimerais que vous me donniez quelques exemples de ces projets, les vôtres et ceux de la ZAD, qui remettent en question justement ce monde. Quand vous dites que vous créez des contre-projets, c'est évidemment pas des contre-projets d'aéroport. Donc de quoi parlez-vous ? Et puis peut-être... Pourriez-vous faire le lien avec ce qui, sur la ZAD, vous charme particulièrement dans les réalisations ? Laurent Lebeau ?
Eh bien, sur la ZAD, en fait, on peut l'appeler une zone d'expérimentation, une sorte de laboratoire qui est à 30 km de Nantes. Et là, c'est très, très intéressant de voir ce qui s'y passe. Les habitants de la ZAD ne diront pas forcément que c'est une zone d'expérimentation parce que c'est aussi leur lieu de vie. Donc, c'est leur quotidien. C'est là où ils sont implantés et où ils font société ensemble. Et ce qu'on peut observer, c'est énormément de... Nous, on appelle ça, c'est vrai qu'en tant que designer, c'est des micro-innovations partout. C'est-à-dire qu'ils testent. Ils sont dans une zone où ils peuvent expérimenter, ils peuvent tester. Et donc, ils inventent un nouveau monde. Enfin, un monde peut-être qui a déjà existé, mais qu'on a un peu perdu de vue. Parce qu'entre-temps, on va dire qu'on a eu une vague agro-industrielle qui a perturbé la donne et on va dire tout le secteur de l'alimentation en France et dans le monde. Et là, on revient aux sources. Alors, c'est pas du passéisme, c'est juste des jeunes, parce que aujourd'hui on a une population qui est relativement jeune, qui a décidé d'observer à nouveau la nature et de voir comment est-ce qu'on pouvait cultiver des choses saines, comment on pouvait les transformer, comment on pouvait aussi passer en autonomie, sans passer en autarcie. Donc il y a énormément de micro-innovations croustillantes qui s'y passent.
Exemple.
Alors exemple, la mise en place par exemple de serres, déjà pour faire du maraîchage, donc c'est très très simple, mais là-bas c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas une zone de maraîchage et un sol qui est extrêmement intéressant. Donc là, il y a de la culture en butte, donc il y a une sorte de recherche sur des pratiques un peu permaculturelles. Ensuite, on peut parler aussi de la meunerie, c'est-à-dire qu'on essaye de faire sur place sa farine. On va aussi aller jusqu'à imaginer une conserverie autogérée, mais bon, toutes ces choses sont difficiles à mettre en place. Donc en fait, on cherche.
Mais là, Laurent Lebeau, vous me parlez d'équipements dont on ne peut pas dire que ce soit des innovations. Faire une serre, monter une conserverie, c'est juste s'équiper, effectivement. Vous avez parlé d'innovation croustillante, faites-nous croustiller quand même.
C'est pas forcément sur la ZAD qu'on rencontre ce type d'innovation, mais je pense que ça doit être en cours d'élaboration. Mais on voit par exemple ce que propose l'atelier paysan avec des agricyclettes.
Le bicitracteur, vous voulez dire ?
Le bicitracteur, oui. Donc, c'est-à-dire repenser la mécanisation agricole, mais d'une façon légère. La penser en fait comme des nuées d'insectes qui viennent se poser sur le sol, qui ne s'enfoncent pas, qui n'écrasent pas les sols. Donc travailler plutôt sur la légèreté plutôt que sur le poids et la surmécanisation propulsée par du carburant. Et là effectivement, on voit par exemple, il y a des expériences qui sont réalisées à l'atelier paysan, où on voit par exemple ce phénomène d'innovation et de réflexion sur des petits insectes métalliques qui viennent juste gratouiller le sol pour l'aérer et permettre au sol de vivre sa vie normale sans être écrasé. Je trouve que ça, c'est la direction à prendre pour l'agriculture de demain.
Pour l'agriculture, pour la vie de tous les jours aussi, puisque ces mêmes ateliers paysans que vous évoquez font également, je crois, un mixeur à pédales et toutes sortes de...
Et des lave-patates, où il y a du lave-patate, du lave-betterave. Enfin, je pense que, ouais, après, quand on part du principe que on s'appuie sur la propulsion humaine pour faire un objet et pour faire de l'agriculture. Après, il faut imaginer toutes sortes d'objets. Mais je pense qu'il y a toute une panoplie à inventer pour permettre cette agriculture légère.
Victor Massip, vous pouvez en ajouter quelques-uns ?
Oui, parce qu'en fait, là où il y a un certain nombre de parallèles, c'est que dans le projet des Écovores, on a pris conscience, au même titre qu'il y a un certain nombre de symbioses industrielles, où les usines entre elles sont connectées, pour faire en fait des externalités, des valeurs qui sont réintégrées dans la chaîne industrielle et de pas perdre et de l'argent et des calories ou des matériaux. Là, on voit que sur la ZAD, bien évidemment, un certain nombre de boucles essentielles qui sont par exemple la boucle des déchets organiques est complètement bouclée. Ils se sont dotés de composteurs, de systèmes de lagunage, de toilettes sèches. Donc elles sont bien évidemment fabriquées avec des planches de matériaux de récupération de palettes, mais en s'appuyant sur la connaissance savante des processus organiques. Et donc en fait, c'est là où est l'intelligence, c'est la connaissance du processus, de mettre assez de matière carbonée pour ne pas avoir de méthanisation, etc. Enfin, pour avoir un certain nombre de produits où on laisse la nature travailler seule. Et c'est ça, cette intelligence incroyable, c'est que, comme le labour, le sans-labour, dès lors qu'on garde la vie des sols fonctionnels, eh bien, on n'a plus besoin de retourner le sol. On a simplement besoin de le griffer. Et donc, que ce soit la boucle organique, que ce soit la boucle de matériaux, on voit bien l'interaction qu'il peut y avoir entre les bourgs locaux qui fournissent les matériaux de récupération pour construire les cabanes, Et donc la réutilisation des déchets pour l'habitat. Donc on a parlé de l'organique, de la boucle matériaux, mais il y a aussi la boucle énergétique, où là on a vu l'association Tripalium installer des éoliennes, une éolienne faite par, enfin vraiment avec les savoir-faire de base, un poste à souder, du tube, des pales qui sont assez sommaires, mais un rendement assez intéressant qui permet aux différentes fermes de fonctionner en 12 volts avec une batterie relais, enfin des moyens extrêmement sommaires pour obtenir un confort assez efficace. Toutes ces boucles sont, disons, réalisées de fait et assurent une véritable autonomie et un bonheur local.
L'aéroport devient presque un détail dans cette vie qui est en train de s'inventer et de fourmiller. Laurent Lebeau ?
Le projet d'aéroport a été l'impulseur à toutes ces micro-innovations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sociales. Mais c'est le thème sur lequel s'appuie toute une génération pour reformuler une société un peu plus adéquate avec...
Inventive ?
Un peu plus inventive, oui. C'est-à-dire une société où on vit réellement, où on prend le temps de vivre. Et cette question de temps, elle est très très importante parce qu'aujourd'hui, on l'a perdu, le temps. On court après le travail, on court après des rendez-vous, on court toujours après le temps. Et là-bas, on prend le temps. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle forcément qui n'est pas toujours confortable parce qu'on est quand même sur une zone de lutte. Donc on a toujours cette pression inhérente présente. Mais il n'empêche que c'est une bulle où il y a une jeunesse qui réfléchit et qui invente.
Et vous, est-ce que vous avez imaginé, justement, quelque chose que vous pourriez offrir à la ZAD, vous, designer industriel, Victor Massip ?
En fait, ce que l'on offre à la ZAD avec les Écovores, c'est faire prendre de conscience à la population nantaise que la ceinture alimentaire est une pépite et que la première des choses à faire, c'est de préserver... Ce périmètre, le but étant simplement de reconstruire la ville sur elle-même pour la partie aéroport, infrastructure économique, etc. Mais de ne pas sacrifier la construction et l'économie à l'économie agricole de proximité qui existe. Donc ça, c'est la meilleure, le meilleur message à envoyer. Pour les solutions matérielles, je pense que les savoir-faire et l'énergie qu'il y a sur place est plus en avance que nous sur un certain nombre de sujets.
Donc en fait, c'est vous qui apprenez de la ZAD.
Tout à fait.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens utiles, des livres, des films concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Philippe Palares, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.